Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors ce soir, c'est un peu particulier parce que voilà, il faut prendre la parole de Dieu pour la partager. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. On a vu il y a quelque temps, on a partagé aussi sur la manière que David avait décidé de transporter l'arche à Jérusalem. C'était un samedi soir, j'ai partagé ça avec vous, les chrétiens du samedi soir, et on s'était arrêté que David avait utilisé les mêmes principes que les Philistins. David avait mis l'arche de Dieu sur un char étiré par deux bœufs. Et quand il est arrivé à un endroit un peu pentu, un peu en hauteur, l'arche a commencé à vaciller et Uzza, qui était là, a essayé de protéger ou d'éviter que l'arche puisse basculer, glisser, tomber, et Dieu l'a tué. Il allait faire une action, une très bonne action, mais toutes nos belles actions, nos œuvres qui viennent de nous, ben ça ne sert à rien devant Dieu. Ce qui est important aujourd'hui, ce sont les œuvres que Dieu a préparées. Pourquoi ? Parce que Dieu a préparé, en tant que Père, il a pris le soin de préparer. C'est comme si vous êtes invité chez quelqu'un, la personne, depuis le matin, s'est mise au fourneau pour vous préparer quelque chose. Et quand quelqu'un se met à préparer quelque chose pour vous, vous devez apprécier ce que la personne a préparé. C'est-à-dire aussi la personne vous considère. Cela nous montre que l'Écriture nous dit que Dieu le Père, a préparé des bonnes œuvres. C'est lui qui les a préparées. Et ces bonnes œuvres, il les a préparées pour qui ? Pour nous, ses enfants. Ce sont des œuvres, des bonnes, pas des mauvaises, parce que ce qui viendra de nous, bien souvent, on va considérer que c'est bien ce que nous faisons, mais Dieu dit non, à mes yeux, c'est pas bon. Et plus que jamais aujourd'hui, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, cibler les œuvres bonnes que le Père a préparées pour nous. Mais dans quel but qu'il les a préparées ? C'est pour que nous puissions les accomplir. C'est-à-dire Dieu veut nous faire devenir participants de ce qu'il fait. C'est merveilleux. Vous trouvez pas ça merveilleux que Dieu veut se servir de nous ? Vous savez, aujourd'hui, les gens se servent des uns et des autres. Des talents que vous avez, que moi j'ai, l'homme va exploiter cela. Les patrons exploitent vos talents pour vous pomper au maximum, et une fois qu'ils ont fini, ils vous mettent en voie de garage. Et vous dites, voilà, monsieur, madame, c'est bon, on ne compte plus sur vous. Mais Dieu n'agit pas ainsi à notre égard. Le Père nous aime tellement qu'il a pris le soin de nous préparer des œuvres. Alors, que devons-nous faire en tant qu'enfants de Dieu ? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons premièrement rechercher, connaître ce que le Père a préparé pour nous. Vous savez qu'on peut passer toute notre vie chrétienne à côté des plans parfaits, bénis, que Dieu avait préparés pour nous. Et vous constaterez que j'ai pris dernièrement un exemple, c'est l'exemple des disciples qui sont partis pêcher. Peut-être qu'ils étaient nostalgiques de ce temps où, avant que Jésus vienne les choisir, ils sont revenus à ce temps-là. Ils sont partis pêcher. Et ils ont pêché toute la nuit, dit l'Écriture, sans rien prendre. Et vous pensez que ça, c'était des œuvres que Dieu avait préparées ? Vous savez, quand nous pratiquions les œuvres qui viennent de nous, nous nous épuisons plus, davantage. Mais quand nous pratiquions les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir, eh bien, après, on sent comme une nouvelle jeunesse, une fraîcheur, on se sent en forme, et on dit au Seigneur, mais je veux encore continuer. Dieu dit, oh, calme-toi. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, j'ai déjà préparé autre chose pour toi. Alors, vous voyez combien c'est important de connaître. Et pour connaître les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, les bonnes œuvres, cela nous demande une chose, c'est de revenir aux bases même de ce qui a fait aujourd'hui notre vie chrétienne. C'est une vie de prière. Et beaucoup d'enfants de Dieu négligent cette vie de prière. C'est pour cela qu'ils pratiquent leurs propres œuvres ou les œuvres dont les uns et les autres leur conseillent, mais quand ça ne vient pas de Dieu. Quand on a une vie de communion, d'intimité avec Dieu, Dieu va nous dire, voilà ce que j'ai préparé pour toi aujourd'hui. Parce que quand on va être devant lui, on va venir avec nos œuvres, ce que nous aurons fait. Mais Dieu dira, d'accord, c'est toi qui l'as fait, mais je t'avais jamais demandé de faire ça. Mais Seigneur, c'était des bonnes... Pour moi, je pensais que c'était bon. Dieu dit, oui, pour toi, tu pensais que c'était bon. Mais regarde un petit peu ce que j'avais préparé pour toi. Parce que quand nous accomplissions les œuvres que Dieu a préparées pour nous, c'est pas quelque chose qui dure 6 mois, 1 an, 10 ans. Ça dure, ça vient de Dieu, ça dure. Ça va sur la durée. Et ça va même jusque dans le ciel. Et c'est pour cela que le Seigneur va nous récompenser. Récompenser de quoi ? Des œuvres que lui avait préparées d'avance. Ce sont de ces œuvres-là qu'il va nous récompenser, frères et sœurs. Mais tout ce que nous aurons fait par nous-mêmes, lever, courir, donner, Dieu dira, tu as fait, c'est humain ce que tu as fait, c'est bien. Mais à mes yeux, c'est pas ce que j'avais préparé pour toi. Alors, ça veut dire que Dieu veut exercer, comme je le disais la dernière fois, nos oreilles à l'écoute de sa voix. Amen, frères et sœurs. Dieu veut exercer nos oreilles à l'écoute de sa voix. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons du mal à faire silence, à faire taire les voix là-dedans. Le bruit, il y a un bruit qui est extérieur, mais il y a le bruit qui est aussi là-dedans et là-dedans. Et beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils sont devant le Seigneur, ils n'arrivent pas à faire silence ni là-dedans, ni là-dedans. Ils vont passer une petite demi-heure, mais dans cette petite demi-heure, l'adversaire les aura volés un quart d'heure de lutte dans leurs pensées. Ils chassent. Ils sont là. Pendant qu'ils parlent à Dieu, ils pensent à autre chose. Le Seigneur est là, ils sont en train de... Ils parlent à Dieu, mais leur esprit vadrouille. Ça ne vous arrive jamais, ça? Vous êtes des gens parfaits, alors? Eh bien, c'est le combat que beaucoup mènent. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent distraire. Et ça nous montre bien qu'il y a un combat même dans ce domaine pour être à l'écoute de la voix de Dieu. C'est une voix qui ne ressemble pas à la voix des hommes. Quand Dieu parle à notre cœur, ce qu'il nous dira va contaminer notre esprit, va envahir notre esprit et va amener la paix, non seulement dans notre cœur, mais aussi dans notre esprit. Il va calmer le vent, il va chasser les pensées, il va ramener le calme. Et là, à ce moment-là, vous pourrez et on pourra entendre clairement sa voix. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se trouvent dans un dilemme. Ils ne savent pas s'ils doivent donner le bras gauche ou le bras droit pour se faire vacciner ou pas. Eh bien, c'est pas un pasteur qui doit vous dire ce que vous devez faire, ni un frère, ni une sœur. C'est lui là-haut. Et pour qu'il puisse vous le dire, vous êtes obligés de vous retrouver face à lui. Vous êtes obligé de mettre de côté certaines choses pour pouvoir être à l'écoute de sa voix. Frères et sœurs, que nous le voulions ou pas, le désert, Dieu nous y emmènera tôt ou tard. Le désert de la solitude, que nous le voulions ou pas, il nous y emmènera. Vous savez pourquoi le désert ? Parce que le désert fait submerger, fait flotter, façon de parler, ce qui est au plus profond de notre cœur. Le désert révèle notre vraie nature. Comment on a su que le peuple de Dieu était un peuple qui murmurait ? Ça s'est découvert dans le désert. Comment on sait que le peuple de Dieu était un peuple ? Ça ne se voyait pas. La Bible nous dit « De l'abondance du cœur, la bouche parle ». Comment a-t-on su qu'Israël regrettait d'avoir quitté l'Égypte ? Dans le désert. Vous voyez que le désert est très important. Le désert est comme si Dieu nous faisait passer notre cœur au tamis, nous éprouvait pour faire monter en surface tout ce qui est limon, tout ce qui est en profondeur du cœur de l'homme que aucun ne sache, même nous-mêmes. Dieu fait flotter ces choses. Et avec son épuisette divin, il ramasse la saleté et le met dehors. Amen. Voyez combien Dieu est bon. Et pour cela, nous devons l'accepter, qu'il nous conduise au désert. Peut-être certains y sont en ce moment, peut-être d'autres sont en train de sortir, mais peu importe. Si cela vient de lui, acceptons le désert. Amen. Frères et sœurs, je suis en train de parler avec vous, partager la parole de Dieu. Alors, prenons dans 2 Timothée. 2 Timothée. Je vais vous parler de David. En transportant l'arche, il a fait l'erreur de faire la même bêtise, la même erreur que les Philistins. Et vous savez, quand vous transportez l'arche, c'est que vous transportez Dieu. Et pour le transporter, il fallait que ce soit les Lévites qui le transportent. Mais les Lévites n'étaient pas là. Ou ils étaient certainement là, mais ils n'étaient pas dans la fonction. C'était David qui avait décidé de faire ainsi. Et quand David a consulté la Bible, la loi, il a compris qu'il fallait revenir à la parole de Dieu, afin de ne pas subir encore un échec et de rester stérile. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur nous dit que vous et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? » Il leur pose la question, « Vous ne le savez pas, ça ?» Eh bien, encore aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler que nous sommes des vases d'argile, des vases de terre, qui portons quelque chose de précieux. Nous portons en nous l'Esprit de Dieu. Le même esprit qui a créé les cieux et la terre habite en nous. Si nous prenons conscience de cela, notre façon de penser va changer, notre vision sur les choses vont changer, notre façon de parler va changer. Il y aura un bouleversement dans notre vie si nous prenons conscience que nous sommes le lieu où l'Esprit de Dieu habite. Frère, j'ai besoin de savoir si vous êtes là ce soir. C'est sérieux qu'on partage. C'est même très sérieux. Quand on sait que nous qui sommes des vases d'argile de terre, Dieu nous a fait la bonté de venir faire habiter en nous son Saint-Esprit. Et il nous le dit, Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? David a porté l'arche, la présence de Dieu, sur un char. Même si le char était neuf, il l'a quand même mis, transporté Dieu. C'est bizarre ce que je dis, hein ? Il a quand même transporté l'arche qui représentait la présence de Dieu. Voilà, c'est encore plus clair. Il l'a mis sur un char neuf, tiré par deux bœufs. Mais Dieu a bouleversé les choses. Voyez ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu dit, je n'habite pas des maisons faites de main d'homme. Je n'habite pas ce lieu. Quand vous êtes là, j'y suis. Quand vous n'êtes plus là, je suis pas là. Pourquoi ? Parce que j'habite vos cœurs. Parce que vous êtes le tabernacle. Vous êtes le lieu où mon esprit habite. Et quand vous allez à la boulangerie, quand vous allez au centre commercial, quand vous allez au travail, quand vous êtes dans l'ascenseur, frères et sœurs, vous emmenez la présence de Dieu. Sois conscient de cela, frère. Tu vas arrêter de te plaindre. Et tu vas prendre la mesure de celui qui habite en toi. C'est pour cela que Jésus a changé la donne. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Le Saint-Esprit habite nos cœurs. Quand tu es dans un endroit où les ténèbres prennent place, tu amènes la lumière. Oui ou non, frères et sœurs ? Quand tu vas dans un lieu où il y a les ténèbres, tu emmènes la lumière. La lumière qui est en toi va briller. Le monde invisible est mal à l'aise. Les mauvais esprits ne sont pas bien. Ils agitent les corps. Ils font que la personne qui était là tout gentille vous disait un grand bonjour. D'un coup, il est comme ça, il vous regarde. Et c'est le mauvais esprit ou les mauvais esprits qui vous regardent à travers ses yeux. Il a des propos méchants. Il a envie de vous insulter. Pourquoi ce n'est pas vous ? C'est celui qui est en elle ou en lui qui se manifeste. Mais l'Écriture nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Prends conscience, enfant de Dieu, que le Saint-Esprit habite en toi. Ce n'est pas à toi de trembler, mais c'est au mauvais esprit de trembler par la sainte présence de Jésus en toi. Si Jésus n'est pas en toi, les démons ne tremblent pas. Ils n'ont pas peur de toi. Ils vont même venir te titiller les pieds quand tu dors. Ils vont même venir t'empêcher de respirer ou te lever. Tu vas sentir comme un poids. Mais quand il y a la présence de Dieu, ils ne peuvent pas te toucher. C'est pour ça qu'il y a une confusion. Quand quelqu'un vient, il dit, je sens quelqu'un me toucher. Ça me met un problème. Je me dis, vous êtes chrétienne ? Oui. Vous êtes chrétien ? Oui. Mais comment se fait-il ? On peut se poser la question quand même. Et ça nous emmène à réfléchir. Comment il peut se permettre de toucher à un enfant de Dieu ? Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose que cet enfant de Dieu doit comprendre ce soir. Qu'il est ou quel est le temple du Saint-Esprit ? Quand vous ne savez pas qui vous êtes, les gens jouent avec vous. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, quelle est votre identité, qui est votre papa ? Regardez les enfants des riches. Ils savent qui ils sont, qui elles sont. Ça se voit dans leur vestimentaire, dans leur façon de parler. On les appelle les enfants de bourgeois. Ça vous fait rire ? Mais Dieu a fait de nous des princes et des princesses. Quand nous ignorons qui nous sommes, qu'est-ce que Dieu a fait de nous ? Nous qui étions loin de lui, errant, sans Dieu, sans espérance. Il est venu nous chercher, il nous a lavés, il nous a habillés, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés et il nous a établis. Dites amen, frère. Parce que les mauvais esprits, le diable n'aime pas ce genre de discours. Ça le dérange quand on dépoussière un petit peu le vase que nous sommes. Le premier vase, Adam, Dieu l'avait façonné parfaitement. Adam, c'était un être magnifique, parce que ce sont les mains de Dieu qui avaient façonné cet être. De la boue, il l'a pris. Imaginez-vous, regardez-vous un petit peu. Regardez-vous un petit peu. Et ne vous arrêtez pas sur ce que vos yeux zooment. Il vous fait voir que vous avez un nez comme ça, les joues comme ça, le corps comme ça. Regardez-vous comme Dieu vous voit. Amen. Regarde-toi comme Dieu te voit, mon frère, ma sœur. Il te voit magnifique, belle, beau. Et s'il pouvait te dire, si tu pouvais entendre sa voix, justement, te disant, mais qu'est-ce que tu es belle, ma fille? Qu'est-ce que tu es beau, mon fils? Ça va te rassurer. Eh bien, aujourd'hui, l'Écriture nous dit, ne vous bornez pas, écoutez la parole, mais mettez-la en pratique. Eh bien, c'est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et 2 minutes après, il a déjà oublié ce qu'il a vu. Eh bien, souvent, nous oublions qui nous sommes. Nous venons au culte. Nous nous levons, nous rentrons à peine sortis. Nos pensées sont déjà en train de vadrouiller à autre chose, à nos affaires, vaquer à nos occupations. On a complètement oublié ce que Dieu nous a dit 10 minutes ou un quart d'heure avant. Que tu es ma fille, que tu es mon fils, que tu es belle. Et si Satan envoie quelqu'un, le diable envoie quelqu'un, même dehors ou à la maison. Oui, hein, regarde comment tu es. Tu es ceci, tu es cela. Tu dois te rappeler ce que Dieu a dit de toi. Tu es belle, tu es beau en Jésus. Cet homme, le psalmiste disait, qu'est-ce qu'il disait ? Je suis une créature merveilleuse. Amen. S'il le disait, c'est qu'il l'avait réalisé. Et il ne nous dit pas s'il avait le nez de travers, les yeux qui louchaient, il ne nous a pas dit ça. Mais il se regardait comme Dieu le voyait. Alors pour que nous puissions nous regarder les uns les autres, ça me demande d'être en communion avec lui. Pour que je ne puisse pas voir l'imperfection qu'il y a chez toi, mon frère, ma sœur. Si je ne me tiens pas en communion avec le Seigneur, je verrai tes défauts. Je verrai tes lacunes. Mais si je me tiens en communion avec lui, l'Écriture nous dit que l'amour, qu'est-ce que fait l'amour ? L'amour recouvre. C'est-à-dire, je verrai pas tes défauts. Parce que je t'aime. Parce que je te regarderai comme Dieu te voit. Avec miséricorde, avec amour. Et avec patience et compassion. Mais si je ne me tiens pas en communion, tout de suite, ce qui est mal chez toi, je vais le voir. Et je vais même aller le colporter aux autres. Je vais aller te déshabiller devant les autres, comme l'a fait un des fils de Noé. Et c'est ça qui fait que bien souvent, le vase que nous sommes, Dieu nous dit ce soir, à moi aussi, Christophe, quel type de vase que tu veux être ? La question, je me la pose, mais je vous la pose aussi. Quel type de vase vous voulez être ce soir ? Alors vous allez me répondre, un vase ou un vase d'honneur. Personne n'osera me dire, je veux être un vase que quand je mange mon poisson, mes arêtes, je le mets dedans. Ou quand quelque chose me reste à la gorge, je remets dans ce vase. Personne ne veut être un vase comme ça. Qui ce soir veut être un vase à usage comme ça? Il y a 2 types de vases. Il y a les vases d'honneur et les vases à usage vil. Et ce soir, aucun de nous veut être un vase à usage vil. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, quelquefois, sans même le vouloir, nous le devenons. En faisant quoi? Ça. En laissant, bien souvent, notre langue nous emmener à pécher. Jésus dit, c'est pas ceux qui rentrent qui souillent, mais c'est ceux qui sortent. Et vous savez, je vous le disais tout à l'heure, l'Écriture nous dit que vous êtes, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et j'ai parlé de la manière que David a transporté l'arche, sur un char neuf, bien sûr. Je vous ai emmené vers Adam, qui était un vase parfait avant le péché. Adam, quand tu le voyais, c'était l'homme parfait. C'est pour ça que l'Écriture nous parle du premier Adam, en la personne d'Adam, et le deuxième Adam, en la personne de Christ. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, le premier Adam, Dieu l'avait créé parfait. Il n'avait pas le doigt de pied qui partait de travers, les yeux qui louchaient. Il n'avait pas ça, il était parfait. Et que s'est-il passé? Satan a trouvé anormal que Dieu avait fait Adam l'homme parfait. En lui conférant des responsabilités sur le jardin, il est venu, il est passé par la femme, et il a réussi à toucher ce vase parfait. Et une fois qu'il a réussi à toucher, non seulement toucher physiquement, mais il a réussi à semer dans le cœur, à amener à ce que Adam devienne un vase à usage vil. Et il a fallu, à travers Adam, Adam a donné naissance à toute l'humanité, à des vases à usage vil. Satan a fait de nous, avait fait de nous, puisqu'on parle au passé, la Bible nous dit, les choses anciennes sont maintenant. Le maintenant, c'est quand on a rencontré Jésus. Et en rencontrant Jésus, on est rentré dans une nouvelle vie. Nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, bien sûr. Nous sortons de Christ. Nous redevenons des vases à usage vil. D'où le fait qu'il faut veiller, frères et sœurs. Veiller. Veiller et veiller encore. Afin que l'adversaire ne nous ramène pas à devenir des vases à usage vil. Qui veut dire, il vient, il dit, tiens, ben je trouve dans son cœur un terrain fertile sur la jalousie, sur la médisance, sur la calomnie. Ce sont des terrains fertiles dans le cœur de l'homme qui permet à l'adversaire de semer ces choses, l'amertume, etc. Et qui fait que cet homme-là ou cette femme-là devient, elle qui était prédestinée à être un vase d'honneur, il deviendra un vase à usage vil. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas veillé. Est-ce que jusque-là c'est clair? Vous vous rendez pas compte, je fais beaucoup d'efforts pour vous essayer de bien amener les choses point par point. Vous êtes là, vous... Mais priez pour moi pendant ce temps. Pour que le Saint-Esprit me donne de vous transmettre les choses avec clarté. Adam était un vase parfait. Le péché est venu souiller ce vase. Dieu dit à Jérémie, Jérémie chapitre 18, Dieu dit à cet homme, à son prophète, Jérémie, oui Seigneur, lève-toi. Il se lève, Dieu lui dit, descends dans la maison du potier. Et là, observe bien comment ce potier travaille. Jérémie descend, il voit cet homme, ce potier avec l'argile sur le tour, en train de travailler pour faire un ouvrage, un vase. Le potier est en train de travailler pour faire un vase. Le vase qu'il était en train de faire lui échappa et se brisa. Oui ou non? Il reprit la même masse. Il le remit sur le tour et il en fait un vase. Cela nous montre tout de suite, Adam, ce vase d'honneur, Satan est venu la briser, le péché. Il a donné naissance à l'humanité, le péché, contamination, plus que le virus. Dieu arrive derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Le nouveau Adam, la personne de son fils Jésus, qui arrive. Et là, alléluia, ni beauté ni éclat, mais d'une splendeur, d'une gloire, Jésus, qui est là ce soir. Et il faut le lui dire parce qu'il est présent. Il aime ça, il aime quand on le glorifie. Il a horreur quand on prend la gloire de Dieu pour nous. Il aime quand on lui donne la gloire. Et ce soir, nous lui donnons toute la gloire à toi, Jésus. Alléluia! Donnons-lui gloire ce soir. Il est digne de recevoir la louange. Non pas à nous, mais à ton nom, nous donnons gloire ce soir. Et quand il est venu, après 40 jours de jeûne, Satan a voulu faire la même chose qu'il a fait avec Adam, à travers la femme, bien sûr. Quand il est venu, il se tourne, il vient comme ça, il regarde Jésus, il tourne autour de lui. Enfin, c'est pas écrit, mais vous me comprenez, j'imagine un peu, hein. Il essaie de trouver la faille. Parce que chez Adam, il n'y avait pas de faille. La faille, il l'a trouvée chez la femme, Ève, qui a voulu discuter avec lui, avec le serpent. Et quand il a trouvé la faille chez la femme, il a dit, je pourrais attendre l'homme, le responsable. C'est ce qu'il a fait. Mais quand il est venu trouver Jésus, il n'y avait pas de femme à côté de Jésus. Alors il a tourné, il a retourné, il est revenu. Il a dit, mais c'est bizarre. Pourtant, c'est un homme, mais je ne vois pas de faille chez lui. Dites amen.
Amen.
Alléluia. Jésus était l'homme parfait. Il n'y avait pas de faille dans sa cuirasse. Chez moi, chez mes frères ici, chez nous tous qui sommes là, il y a une faille dans la cuirasse. Et c'est pour cela que Dieu permet que la faille est dans la cuirasse. Dans quel but ? Pour nous amener toujours à venir à ses pieds et à rester petits à nos yeux. Restez humbles. Mais Jésus n'avait pas besoin de rester humble. Il était l'humilité lui-même, personnifié. Il était l'amour personnifié. Il était la bonté personnifiée, la patience personnifiée. Il était ce que Dieu est sur la terre personnifié. Et c'est pour cela que l'adversaire, en tournant autour de lui, la seule faille, si je peux employer ce terme, c'est que Jésus eut faim. Il était homme, comme vous et moi. Pendant 40 jours, sans manger, il eut faim. C'est tout à fait normal que le corps humain réclame la nourriture. Et là, Satan, il vient, il dit, « Hé, regarde, tu vois ces pierres, ordonne qu'ils deviennent des pains. » Tout de suite, Jésus a dit, « Oui, c'est vrai, j'ai tellement faim, alors Pierre devient du pain. » Ça serait fait. Non, non, mais ça se serait fait. Allons-y jusqu'à la logique de l'adversaire. Mais Jésus n'a pas cédé. Il a dit l'homme, il parlait de lui, mais il parlait aussi de celle et celui qui allait prendre naissance, qui allait naître de nouveau à travers l'évangile. Il disait que cet homme-là, cette femme-là, ne passe pas sa vie à manger comme du temps de Noé. Les gens mangeaient comme aujourd'hui. Jamais vous avez vu autant de cuisine, autant de comment manger. Même les hommes se mettent à faire à manger. Chose qu'ils laissaient à leur femme autrefois. Chérie, qu'est-ce que t'as fait? Aujourd'hui, chérie, c'est prêt. Eh ben, du temps de Noé, c'était pareil. Eh ben, aujourd'hui, quand il est venu avec la nourriture pour tenter le Seigneur dit, tu sais, l'homme, celui, écoutez bien, quand il dit l'homme, il parle de cet homme parce que Jésus était l'homme parfait. Et de lui, Jésus allait avoir beaucoup de petits hommes parfaits comme vous et moi. Ce sont ceux qui allaient accepter l'évangile. Eh ben, même si on voit qu'il y a encore de l'imperfection chez nous, mais en lui nous sommes, dites-le! Il faut qu'il entende. Pas Jésus, mais l'adversaire, puisqu'il sait qu'on est parfait. Il a fait de nous des hommes et des femmes. Merci. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce que Jésus nous transmet pour nous dire, tu sais Christophe, vous savez mes enfants, pour tenir bon contre lui, il faut ça. Sans ça, on ne peut pas tenir contre lui. Il est écrit que l'homme ne se nourrit pas, ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, à travers Jésus, pour continuer, est-ce que vous me suivez ? Très bien. À travers Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu redonne à l'homme la possibilité d'être parfait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, ce vase, Jésus, vous êtes d'accord qu'il n'a jamais péché. La Bible nous dit qu'il s'est fait pécher, lui qui était sans péché. On est d'accord. Regardez bien dans Ésaïe 53. Prenez avec moi Ésaïe 53.
Vous êtes content. Les hommes n'ont rien inventé, ils ont inventé Uber, Eat, livraison à domicile. Mais là, vous êtes des privilégiés. Depuis des mois et des années, vous êtes livrés à domicile. Vous venez, vous êtes assis et vous mangez. Merci Seigneur. Ésaïe 53. Toujours en gardant la pensée du vase, Jésus le vase parfait. Jusque-là, ça va? Alors nous prenons Ésaïe 53 au verset 5. Regardez ce qu'il est dit. Au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Celle et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne voit pas à travers cette lecture qu'il ait fait mention de Jésus-Christ. Mais celui à qui Dieu fait la grâce de recevoir le Saint-Esprit, qui devient enfant de Dieu, quand il lit ce texte, Ésaïe 53, tout de suite, il voit en toile de fond le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et le sacrifice merveilleux du Seigneur Jésus. Il dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, écoutez bien, et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. » Jusque-là, vous êtes d'accord? Et ensuite, il dit, brisé pour nos iniquités. Vous voyez, le mot brisé apparaît. Le vase que Jésus était, à cause du péché, à cause de son sacrifice à la croix, ce vase a été brisé. Il a accepté d'être brisé. Il n'y avait rien en lui qui pouvait emmener à ce qu'il soit brisé par Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais parce qu'il avait porté nos péchés, nos maladies, puisqu'il s'est identifié à nous pour absorber parfaitement comme une éponge tout ce que le péché, tout ce que Satan avait mis en Adam, Jésus est venu à aspirer cela. Alléluia. Et en aspirant cela sur lui, en prenant cela sur lui, l'éponge, façon de parler, parfaite, blanche qu'il était, est devenue une éponge noire. Noire à cause de nos péchés. Parce qu'il a absorbé. C'est comme si vous mettez une éponge blanche dans une bassine d'eau avec de l'encre, vous sortez l'éponge, il est noir. Elle est noire. C'est exactement ce qui s'est produit. Et plus que cela, cette éponge, nous dit la Bible, Jésus-Christ, l'image que je prends, ne dites pas que j'ai dit Jésus est une éponge, c'est l'image, c'est caricature un peu pour qu'on puisse comprendre, eh ben, il a été brisé. Le vase Jésus à la croix du calvaire. Les clous, on ne l'a pas attaché, ni les pieds, on n'a pas mis une couronne en plastique sur sa tête, on a mis une couronne d'épines et que quand on lui a enfoncé la couronne, cela a blessé son front, son crâne, le sang coulait le long de sa tête, son visage était ensanglanté et ses mains, les clous qui l'ont percé, qui ont retenu ses deux mains et son pied, le sang coulait. Oui, ce vase volontairement s'est offert à Dieu, premièrement, pour que Dieu utilise le sacrifice. Ce sacrifice d'un agneau sans tache, sans péché, comme un parfum de bonne odeur qui monte. Et aux narines de Dieu, Dieu a humé cela, il a dit, ça me plaît, ça sent bon, ça n'a pas de péché, ça ne vient pas d'un homme quelconque, mais ça vient de mon fils. Alors je vais utiliser ce sacrifice pour ouvrir la porte de la grâce à l'humanité, dont nous nous sommes rentrés aujourd'hui par la porte. Et vous croyez qu'il y en a encore d'autres qui veulent entrer? Il y en a encore d'autres qui doivent rentrer avant que cette porte se referme. Frères et sœurs, et là, pour que ceux qui doivent rentrer par cette porte qui s'appelle la porte de la grâce, c'est là que nous rentrons véritablement dans les œuvres que Dieu a préparées, ces bonnes œuvres d'avance. Les poissons que les disciples ont pêchés, c'est l'image des personnes que Jésus va ramener à l'Évangile. Les poissons que les disciples ont pêchés après la parole de Jésus, c'est l'image, le filet, c'est la parole de Dieu, l'évangile. Et les poissons, c'est comme des âmes qui doivent se donner, venir en sécurité dans la barque, dans l'arche, comme Noé était en sécurité. Le Seigneur veut se servir de vous. Jésus n'a pas dit aux disciples, attendez, j'arrive, et en venant, je marche même sur l'eau pour vous montrer que je suis Jésus.
Non, il a dit, enfant, avez-vous quelque chose à manger? Il dit, non. Eh ben, on a pêché toute la nuit. Est-ce que vous avez pris quelque chose? Non.
Bredouille.
Jetez le filet côté droit. Et quand ils l'ont jeté, imaginez-vous, toute la nuit, ils avaient fait le geste devant, derrière, à droite, à gauche, ils avaient rien pris. Mais sur la parole de Jésus, en jetant le filet, ils étaient là, ils étaient confus. Du poisson. Ça grille, ça, comme ça, là, comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait exactement où se trouvaient les poissons. Le Seigneur sait qui sera sauvé, qui ne le sera pas. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, croyez-vous que Dieu est un Dieu de précision? Est-ce qu'il a créé l'univers avec précision? Est-ce qu'il a aligné les planètes Mars, Jupiter avec précision? Oui ou non? Est-ce qu'il a placé chaque étoile à leur place avec précision? Alors que pouvons-nous dire de ce Dieu-là? C'est un Dieu de... C'est notre Père. Il nous aurait créé avec défaut, il nous aurait créé avec un œil ici, comme les cyclopes, avec une oreille ici, mais il a bien mis les choses à leur place. Les oreilles à leur place, les mains à leur place, le petit doigt, si vous pensez que demain on vous enlève un petit doigt, vous aurez du mal à tenir quelque chose. Si on vous enlève le gros orteil, vous aurez du mal à trouver l'équilibre. Tout a été mis en place de manière précise. Amen. Notre Père et notre Dieu est un Dieu de précision. Il a créé les cieux et la terre. Et l'Esprit qui habite en nous est un Esprit aussi qui a créé l'Esprit de Dieu. Il habite en nous. Je crois véritablement qu'il veut nous emmener à faire des œuvres précises. Pas en courant comme en tapant l'air, en disant « je vais là-bas à droite, je vais à gauche, je vais faire ceci, je vais faire cela ». C'est pas ça. Nous vivons les derniers temps. Et le Seigneur veut emmener son peuple à ne pas se fatiguer pour rien, mais à être précis dans les choses qu'il doit nous conférer. Amen, frères et sœurs. Si nous devons évangéliser, ne faisons pas, parce que d'autres assemblées font comme ça, ne faisons pas comme eux. Consultons Dieu. Et il nous donnera la pensée précise. Rappelez-vous qu'on a partagé ça il n'y a pas longtemps. Dieu a dit à David, tu contourneras les Philistins. Tu n'iras pas frontal. Pas d'attaque frontale, pas de guerre corps à corps, main à main. Non, épée contre épée. Non, pas ça. Contourne-les. Imaginez-vous, les Philistins, ils viennent en masse. Ils descendent, ils disent, ils sont où? Pensant qu'ils allaient affronter corps à corps, arme avec arme. Ils ont été pris dans le vent. Dieu leur a donné un vent. Ils sont arrivés, il n'y avait pas Israël. Israël, il les avait contournés parce que Dieu avait dit à David, contourne-les. Et Dieu lui avait dit, écoute David, la première fois, tu étais à l'affrontement frontal, mais la deuxième fois, tu vas les contourner. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ce ne sont pas tes armes qui vont te donner la victoire, mais c'est moi. Et nous sommes rentrés dans cette ère nouvelle où nous devons laisser Dieu combattre pour nous. Amen, frères et sœurs. Bien qu'il veut nous faire participants de sa gloire, de ce qu'il a préparé, mais les œuvres qu'il a préparées d'avance, quand nous les accomplissions dans sa bonté, qu'est-ce qu'il nous dit de dire? Nous sommes des serviteurs. Vous voyez que c'est même pas nous. Lui, il se sert de nous pour les opérer. Mais en réalité, c'est lui qui le fait à travers nous. Ça veut dire que plus que jamais, l'Église de Jésus doit rechercher la précision. Amen. Pas de prière. Seigneur, je te... Non. On est précis dans ce qu'on demande à Dieu. Pour recevoir une réponse précise de la part de Dieu. Pour rendre un témoignage précis, non pas fofolle ou foufou, mais qu'on rend quelque chose de précis à ceux qui nous demandent raison de notre foi. La raison pour laquelle, comment j'étais atteint d'un cancer, Dieu m'a guéri. Comment? Eh bien, il a fait ça, précisément, parce que je lui ai demandé ça, précis.
Dis amen, mon frère. J'ai pas dit les sœurs, j'ai dit mon frère. Gloire à Dieu. Un Dieu de précision. Il a été brisé, dit l'Écriture. Il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Au verset 10, encore, tournez la page pour ceux qui ont une Bible auquel il faut tourner la page. Il a plu, regardez bien, il a plu à qui ? À Dieu son Père, l'Éternel de le... Il a plu à Dieu de le briser, frères et sœurs. Par la souffrance. Dieu, on dirait, mais comment Dieu, cela lui a plu, il a trouvé plaisir. Pourquoi ? Parce que, au lieu de briser toutes les vases que nous sommes, l'humanité, au lieu de, à nouveau de le plier, d'envoyer le feu comme il a envoyé l'eau, le déluge, il a dit, je préfère briser un au lieu de briser tout le monde. Vous trouvez pas, c'est un Dieu merveilleux ? Un Dieu d'amour ? Au lieu de tous nous détruire, la planète, il pouvait le faire, puisqu'il a dit à Moïse, je vais tous les tuer et je vais recommencer par toi. Moïse a dit, non, ne les tue pas, Seigneur. Tue-moi, ne les touche pas. Eh ben Jésus, la même chose, il a dit, mon Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. En gros, il disait, brise-moi. Je veux être le paratonnerre. Moi, je peux faire mourir. Que l'humanité meure. Eh ben, il a plu à l'Éternel de le briser lui par la souffrance. Ce vase parfait, sans défaut, le plus beau des fils de l'homme. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour être, mais il était merveilleusement beau. Et ce soir, le Seigneur veut essuyer, nous donner du collyre à travers sa parole pour que nous voyons la beauté majestueuse de son fils Jésus. Il est le plus beau des fils de l'homme. J'essaie de vous le présenter ce soir à travers ce moment, mais regardez-le, laissez le Saint-Esprit vous donner de le regarder tel qu'il est. Il est magnifique. Il est beau, Jésus. Personne n'est aussi beau que lui. Tous, défauts dans la cuirasse. Le plus grand des prophètes, le plus grand des pasteurs, des apôtres, des évangélistes. Il peut faire tous les grands miracles, ressusciter les morts. Déplacer les montagnes, ça sera un homme avec une faille dans la cuirasse. Mais Jésus, pas de défaut. Les dames ne le regardaient pas parce qu'il avait les yeux de telle couleur, ou les cheveux longs, ou la barbe. Les femmes de l'époque le regardaient parce que de sa bouche sortait quelque chose qui émanait la vie. Elles étaient subjuguées, séduites par cet homme. Non pas parce qu'il avait ni beauté ni éclat, mais parce qu'il sortait de sa bouche. Arrêtons, mes sœurs, de regarder à l'apparence, comme l'a fait le prophète Samuel. En regardant Éliab, il l'a trouvé beau, magnifique, mais Dieu a dit non, Samuel. Tu regardes selon l'apparence extérieure. Ça veut dire que tous les hommes regardent selon l'apparence extérieure. Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Tu veux te marier ? Tu demandes à Dieu un beau garçon, les yeux bleus, verts, turquoise ou je ne sais quoi, qui n'est pas un nain de jardin mais qui fait 1m90, qui est baraqué. Et si Dieu te dit c'est le petit qui est là, qui est obligé de mettre des talonnettes pour venir à ta hauteur, c'est lui que j'ai préparé pour toi. Tu vas dire quoi au Seigneur ? Ah non, c'est pas elle, c'est pas lui. Alors Dieu te dira, mais je sais ce qu'il te faut. C'est ce qu'il te faut. Alors tu vas rentrer dans une discussion avec Dieu. Ah non, tu vas te déprimer, burn-out, dépression. Et Dieu te dit, c'est lui ou c'est elle. Ah, je pensais que, Dieu dit, non, non. Tu pensais que, mais moi, voilà ce que j'ai choisi pour toi. Et c'est pour ça que beaucoup de frères et sœurs sont dans un désert de solitude. Ils attendent, ils sont comme ça. Mais Dieu leur a dit, c'est lui. Il dit, ah non. Il tourne par là, Dieu dit, c'est lui, c'est elle. Ah non. Alors ça fait des mois et des années qu'ils tournent en rond. Et bien souvent, ils vont chercher. Ils sortent dans l'enclos et ils vont chercher à l'extérieur. Et à l'extérieur, je peux vous dire, c'est des top modèles. Hein. C'est, on y va, hein. Ah, il est beau. Elle est belle. Oui. Du temps de Noé, les femmes étaient très belles. Les fils de Dieu descendaient, les ont pris pour femmes. Et ils n'ont pas demandé leur avis aux hommes, hein. Ils sont venus avec une violence en disant, je la prends. Et si l'homme pouvait dire, il dit, tu sors de là. Voyez? Mais aujourd'hui, la beauté de Jésus pour revenir à lui, il est magnifique. Que le Saint-Esprit ce soir nous donne de le voir tel qu'il est. Je poursuis. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ésaïe 53, verset 10. Le vase, Jésus, était un vase hermétique au péché. Le péché a essayé de rentrer. Impossible. C'est comme l'arche. Dieu a dit à Noé, en donnant des précisions à Noé a construit l'arche exactement comme Dieu lui avait dit. Les mesures exactes. Et en plus de cela, Dieu lui a dit, tu feras avec le bitume, un genre de goudron, et tu vas enduire l'arche, je crois, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est bien ça? Merci Seigneur. Une étanchéité hermétique à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est ce que Dieu veut faire pour nous ce soir. Il veut rendre notre cœur hermétique au péché. Quelqu'un vient pour nous parler sur quelqu'un d'autre, hermétique. On vient, notre bouche essaie de hermétique. Que nous puissions éviter que nos bouches, nos langues jugent, critiquent, frères et sœurs. Et de là, je bascule avec vous pour finir la pensée dans 2 Timothée. 2 Timothée. C'est un sujet qui est large, mais je vais fermer la parenthèse et on y reviendra si Dieu le permet. Alors, 2 Timothée, chapitre 2. Voilà le vase d'honneur qui arrive. Et prochaine fois, on prendra le vase à usage vil. Le vase à usage vil, c'est le chrétien qui n'a pas pris le temps de rendre son cœur hermétique par l'amour. Il n'a pas enduit son cœur de l'amour de Dieu. Il se protège pas. Il est là. On vient lui dire, ah, tu sais, le frère, un tel, ceci. Ah oui. Son cœur n'est pas hermétique. On vient lui raconter une histoire sur un frère ou je ne sais qui d'autre, une sœur. Ah oui. Son cœur n'est pas hermétique. C'est un vase à usage vil. Tu n'as pas besoin de ton chewing-gum, tu le jettes dans ce vase. Tes arêtes de poisson et tes os de poulet, tu le jettes dedans. C'est un vase à usage vil. Il y a des cœurs de certains chrétiens qui sont des vraies poubelles. Excusez-moi de vous le dire. C'est des vraies poubelles, frères et sœurs. Si nous ne gardons pas notre cœur pur, propre, ça devient des vrais déchets. On vient, on jette tout ce qu'on veut dedans. Nos oreilles écoutent et après nos langues, ça parle sur les uns sur les autres. Et on se demande pourquoi le figuier que nous sommes, l'arbre que nous sommes, pourtant planté près d'un courant d'eau, ne donne pas de fruits. Ben Dieu dit parce que, justement, ton cœur, tu n'as pas veillé dessus. Celle qui est venue te parler sur ta sœur, sur ton frère, tu l'as écoutée. Ah, tu n'as pas osé lui dire, au lieu de dire non mon frère, non ma sœur, je ne mange pas de ce pain-là. Je me garde pur, propre. D'accord, frères et sœurs? Alors, le vase à usage vil, il prend tout ce qui passe. On va dire c'est la scène. Mais le vase à usage d'honneur est noble, on va le lire maintenant. À partir du verset 20. Et dans cette grande maison, prenez tout de suite, en mettant à la place de maison, l'église. D'accord ? Pour mieux comprendre les choses. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Et cela nous fait penser à ce que Jésus nous parlait quand il parle de l'ivraie et le bon grain, qui poussent ensemble. L'ivraie pousse ensemble et il faut vraiment avoir un discernement pour discerner l'ivraie au sein du bon grain, du blé. Il y a des chrétiens nés de nouveau qui grandissent. Et même dans cette même assemblée, il y a d'autres personnes qui se disent chrétiens, c'est l'ivraie, qui poussent pareil. Mais il y a une séparation qui aura lieu quand Jésus reviendra. La séparation aura lieu. Et là, il est dit ceci, dans cette grande maison, il y a des vases d'or, d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases, dites-le. C'est ce que nous sommes ce soir. Puisque je vous ai posé la question, quel type de vase nous voulons être? Voulons-nous être des vases d'honneur ou des vases à usage vil? C'est une question que je jette là, devant vous. Et c'est à vous de me répondre, en votre âme et conscience, devant le Seigneur. Vous dites, c'est vrai Seigneur, j'ai pas toujours été ce vase d'honneur que tu aurais voulu que je sois. Mais j'ai quelquefois, j'ai failli, j'ai écouté, j'ai parlé, je te demande pardon, c'est réglé. D'accord? C'est réglé, j'entends, avec Dieu. Voilà. Alors je poursuis. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Et regardez ce que dit l'apôtre. Si donc quelqu'un, pour être un vase d'honneur, l'apôtre dit, il nous donne la clé et les réponses par la parole de Dieu. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, voyez la pureté, pureté de cœur, en s'abstenant de ces choses. De quoi ces choses? De quoi il parle l'apôtre? Eh bien, il nous dit, il nous donne la réponse au verset 22. Il nous dit, fuis les passions et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent. Voyez, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et voilà ce dont nous devons nous garder. Il dit, repousse les discussions. Et combien des fois nous nous sommes entretenus dans des discussions qui ne servaient à rien. On s'est entretenu, on a échangé au téléphone. Ah ouais, tu sais, oui, ceci, cela. C'est des discussions vaines, folles, qui n'amènent à rien. Et le Seigneur le dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des... Voyez la source? Les discussions folles font naître des querelles. Pourquoi dans les églises, il y a des querelles en dessous? Parce que justement, on a nourri, on n'a pas veillé sur notre cœur, à garder notre cœur hermétique aux critiques, aux jugements. Alors ça suscite dans les cœurs, ah oui, tu sais, hein, ah oui, et ça discute. Et là, ça veut dire que votre cœur, vous qui devrez être un vase d'honneur pur, c'est souillé. Le Seigneur ne peut pas faire grand-chose avec ça. Alors il dit ceci, repousse les discussions folles. Il nous donne la clé, il nous dit repousse-les, refuse-les, rejette-les. Inutile, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, au verset 24, regardez, il nous donne la clé. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ou servante de Dieu ait des querelles. Il ne faut pas ça, Dieu dit. Et l'adversaire va tout faire pour emmener quoi? Des querelles, de la rivalité. Et depuis la nuit des temps, ça existe. Caïn a tué Abel, pourquoi? Par jalousie. Ainsi de suite. Joseph, il a été jeté, fait quoi quand il était mort? Par jalousie, par ses frères. C'est quelque chose qui est depuis la nuit des temps. Et nous, on n'est pas mieux que ces personnes qui nous ont précédés, mais le Seigneur nous donne la clé. Il nous dit, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance. Vous qui avez fait des grandes études, vous pouvez m'expliquer la condescendance, ce que ça veut dire. De la bienveillance. C'est un mot qui est à la mode aujourd'hui. Le monde utilise ce mot de la bienveillance, la bienveillance, la bienveillance. Mais sans Jésus, dans notre cœur, on ne peut pas être bienveillant. Avec Jésus, oui, de la bienveillance, le fruit de l'esprit, Dieu nous demande de l'entretenir et de marcher par l'esprit. Il nous dit de la condescendance pour tous, être propre à l'enseignement, à enseigner, le serviteur de Dieu, doué de patience, il doit redresser avec douceur, s'adresse au serviteur de Dieu. Alors je veux revenir. Ce soir, nous décidons, nous voulons être des vases d'honneur, oui ou non ? Dieu nous donne la clé, mais nous allons revenir au verset 19. Non, verset 16. « Évite les discussions vaines et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. » Après, il nous donne un exemple d'un homme, Hyménée et Philète, deux hommes, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Là, le verset 19 nous intéresse. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur, voilà, connaît ceux qui lui appartiennent. Le bon grain et l'ivraie poussent ensemble, mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Regardez la suite. Quiconque, deuxième partie du verset 19, prononce le nom du Seigneur, s'attache au mal. Il s'éloigne de l'iniquité. Vous voyez la clé que Dieu nous donne ce soir, les clés. Il nous dit, Seigneur, je veux être un vase d'honneur. Dieu te dit, d'accord, voilà ce que tu dois faire. Les discussions vaines, folles, qui ne servent à rien, les jugements, les critiques, la calomnie, ça ne sert à rien. Il te dit, quiconque a le nom du Seigneur dans la bouche, comme beaucoup de chrétiens l'ont, il doit s'éloigner du mal. Voilà le conseil que Dieu nous donne, qu'il s'éloigne du mal. Pourquoi ? Parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Vous dites amen ? Je pense que j'ai fini pour cette partie-là, pour ce que nous voulons être ce soir, des vases d'honneur. Et nous verrons que cette femme, dans l'épître, dans l'évangile de Marc, je crois bien, j'avais noté ça quelque part, elle est venue avec un vase, vous vous souvenez ? Elle est venue avec un vase, et qu'a-t-elle fait ? Elle a brisé ce vase. Et le Seigneur voudrait, ce soir, que nos cœurs soient, comme le dit le psalmiste, le psaume 51. C'est ma dernière lecture. Vous avez déjà rangé l'instrument de travail ? Le psaume 51... Un psaume que nous lisons bien souvent, psaume de David. Tu es le temple du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Il dit ceci. Dans 51, verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Ce qui plaît à Dieu, c'est quand il voit que son peuple vient avec un esprit brisé, en disant « Seigneur, voilà, deux hommes montaient au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre était républicain. » Le pharisien est rentré dans le temple et il égrenait devant Dieu tout ce qu'il faisait. Il jeûnait, ceci, cela. Le publicain n'osait même pas rentrer dans le temple, dans la présence de Dieu. Mais que faisait-il? Il était à l'extérieur et il n'osait même pas lever la tête vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « ô Dieu, sois apaisé envers moi, parce que je suis un pécheur. » Et le Seigneur ce soir regarde chacun de nous de la manière que nous mettons la main, exactement comme il voyait la veuve mettre les deux pièces qui lui restaient dans le tronc. Le Seigneur voit dans quel état d'esprit nous prenons le pain et nous prenons le vin. Souvent on fait ce geste, mais est-ce que les mains de notre cœur aussi font le même geste? Eh bien, le Seigneur nous dit ce soir, Seigneur Jésus, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Et le psalmiste, il dit, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est un esprit contrit et brisé. Inclinons notre tête quelques instants, frères et sœurs.